Donc, je pense qu'on peut conclure là-dessus pour ce qui est du bloc Hollywood et passer directement au cinéma international qui nous a marqué cette année. Trois films en particulier, dont un récipiendaire de la Palme d'Or en mai dernier qui a séduit énormément de gens et qui en a laissé perplexe, je pense,
la même
quantité exactement, qui est Oncle Bunmi, allons-y avec son titre français, qui se souvient de ses vies antérieures, d'Apichat Pong Veracitacul, qui, je crois, a énormément plu à notre ami Alexandre.
Ben, moi, effectivement, j'ai trouvé que c'était un film formidable. Puis ce qui m'a surpris à la sortie de la salle, c'est que les gens cherchaient désespérément à se faire expliquer ce film-là. Puis ils
Ouais, c'est un
comprenaient
truc
pas
à
chaque.
sentir, ouais, c'est...
Puis, mais je veux dire, c'est pas un film qui est plein de sens autant qu'il est plein de subjectivité. Puis justement, qui assume profondément son côté mystique et mystérieux. Puis c'est justement ça que les gens très rationnels ont pas eu
C'est un film
l'air
de
de
sensation,
saisir.
quoi. C'est,
Puis
il
pas
faut
juste
se
de
laisser porter,
sensations, mais
quoi.
je veux dire, toute la vision du monde qui est véhiculée est une vision du monde religieuse, vraiment différente, d'ailleurs différente de celle qu'on a en Occident. Puis ça prend, ça je l'admets, une certaine ouverture, mais je peux pas croire que les gens sont arrivés puis qui ont été écoutés Uncle Boonmi, pas pour se laisser inspirés ou...
Mais s'ils avaient...
Ce
S'ils
qu'ils
n'ont pas
cherchaient, c'est
l'habitude aussi
à
de ce genre de...
justifier une palme d'or. Ils
Ouais.
sont arrivés puis ils
Ouais.
ont dit, est-ce que ça valait une palme d'or? Non ou oui,
Ouais,
mais je veux
c'est
dire,
clair.
c'est complètement irrationnel comme manière de traiter un film, selon moi.
Jean-François?
Mais à l'inverse, est-ce que ça n'a pas pu justement créer, bon, chez le public qui va attendre la Palme d'Or pendant 5-6 mois, qui s'attend nécessairement à genre, un modèle de film établi, est-ce que justement ça n'a pas un peu tué les attentes de ces personnes-là qui s'attendaient à avoir comme un film dont. Comment on pourrait dire, qui porte plus mieux le sceau de Palme d'Or, et finalement on se retrouve devant un film qui est vraiment.
Mais
C'est
moi, je
une
trouve que.
façon de comprendre ce que c'est la Palme d'Or aussi. Hein.
Ouais,
Ouais,
mais
non, c'est sûr.
je pense
On...
que c'est ce que Cannes voudrait pas, ce serait justement que la Palme d'Or
Ouais.
devienne un sceau.
Et oui, c'est pas
Non,
les
absolument.
Oscars.
Puis peut-être, en ce sens-là, de ton point de vue, Jean-François, Oncle Boonmi, pardon, a vraiment pas aidé à la Palme d'Or à se trouver un sceau, mais en même temps, de l'autre côté, c'est formidable qu'il crée justement une
Parce qu'il y a
variété.
beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout habitués ni à Veracitacul ni à ce genre de cinéma et qui se sont physiquement laissés porter. C'est bizarre comme expression, mais à la sortie de ce film, moi j'ai parlé avec des gens qui n'étaient pas du tout habitués à voir ça et ils me disaient c'est incroyable. À un moment donné, je me sentais physiquement bizarre. Étrange, c'était et je me suis laissé porter. Donc il y en a plein qui ont joué le jeu aussi.
Mais j'ai l'impression que aussi certaines personnes, moi le premier, on allait chercher quelque chose on cherchait au mauvais endroit à l'intérieur de
Ah
d'Uncle
oui, c'est
Boonmi.
vrai.
C'est-à-dire on cherchait du sens, on cherchait une explication qui allait venir et qui finalement n'est jamais venue. Et peut-être là est le gros problème de la réception du film, c'est justement de voir une scène et de se laisser porter par cette scène-là. Pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une
Même plus
scène
une scène, une
complètement.
image,
Oui,
pour le coup.
exactement.
Un son, surtout. Le son dans ce film, c'est incroyable.
Ouais.
L'ambiance
Le
sonore.
rapport au temps est incroyable. Je veux
Ouais.
dire, c'est un film qui est à la fois extrêmement lent et étrangement rapide dans la mesure où il finit par être découpé d'une manière où on saute d'une scène à l'autre. Il y a un conte traditionnel, folklorique, qui apparaît en plein milieu du film. On voit ça. Après ça, il y a une séquence qui, à mon humble avis, est une sorte de référence à La Jetée de Chris Marker, où on parle d'un voyage dans le temps, il y a des images fixes. Puis c'est comme une collection d'idées. Puis moi, j'ai trouvé que c'était un film, justement, dans une année où tous les films s'affairaient à me raconter une histoire de la manière la plus classique possible. Celui-là essayait simplement de me donner des impressions par des moyens strictement cinématographiques. Et aussi, voulait juste pas me parler de la mort, mais juste
La faire
réfléchir
sentir,
avec
ouais.
moi à la mort. M'inviter à réfléchir à la mort. Puis il y a un autre film qui invitait à la réflexion puis qui a été généralement massacré, c'est le film socialiste de Jean-Luc Godard. Je peux comprendre qu'on n'ait pas aimé ça. Moi, personnellement, j'ai quand même, comme je disais, je sais pas si j'ai aimé ce film-là tant que ça, mais il m'a donné le goût de faire mon propre film encore une fois. Ce que je trouve merveilleux d'un cinéaste, c'est qu'après 50 ans de carrière, il soit encore capable de me dire t'es capable de faire du cinéma, peu importe tes moyens. Puis qui, même si c'est un auteur établi, il réussit encore à se mettre au défi en tant que créateur de forme. Le film de Jean-Luc Godard, les gens sortaient en plein milieu de la projection, disaient qu'il était en train de se faire arnaquer par un vieux père fourra diabolique. Mais je veux dire, non, c'est un Jean-Luc Godard, c'est un gars qui est là pour me provoquer. Puis j'ai eu l'impression que les cinéastes, les cinéphiles étaient vraiment frileux dans l'accueil à Oncle Bunmi, dans l'accueil à Film Socialisme, ou même dans l'accueil au Takeshi Kitano Outrage. Moi, j'ai trouvé que les gens s'attendaient à ce que ce soit, vu que c'était son retour au film de Yakuza, ça devait être un film grandiose et très sérieux. Le gars se permet une comédie où il est hyper référentiel par rapport à lui-même. Les gens ont généralement pas aimé ce film-là. Moi, j'ai trouvé qu'en termes de cinéma pur, c'était un des films qui se faisait le plus plaisir à chaque plan en 2010. C'était un film qui jouait avec ses propres codes, qui osait tout le temps, les plans sont tout le temps... T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il promène sa caméra d'une certaine manière, il est en train de rire avec un air satisfait. Puis moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de ça dans le cinéma en 2010. Il n'y avait pas assez de gens qui se faisaient plaisir avec la caméra. Je pourrais aussi donner ça à The American. J'ai l'impression que c'est long plan, fixe, puis c'est son espèce d'admiration devant la figure songeuse de George Clooney. C'était un cinéaste qui se faisait plaisir dans sa manière de tourner.
Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur les deux autres, The Social Network et True Grit. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils ne se font pas plaisir, effectivement, ou que ponctuellement.
Mais c'est intéressant que tu parles de réception. Je pense qu'on en a beaucoup parlé depuis le début. Ça va me permettre de sauter à un autre film, cette fois français, qui aussi a obtenu une certaine unanimité à Panorama, moi que j'ai trouvé magnifique personnellement, et je crois que tout le monde va être d'accord. C'est tourné, je pense, 3e ou 4e film de Mathieu Amalric, récipiendaire, je crois, du prix de la mise en scène à Cannes. Mais qui cette fois, ben, je pense que Jean-François Alexandre, il a fait votre liste, bon, il a fait une grande quantité de listes. Film... En même temps, étrange, ça, là, je pense qu'on parle d'un réalisme vraiment particulier, puis d'une mise en scène aussi étrange, parce que une complicité vraiment particulière avec le cinéaste et ses actrices, ouais, qui jouent, dans le fond, leur propre rôle à l'intérieur d'une histoire fictive.
Mais qui n'est même pas tant que ça une histoire, non, c'est fictive, ça. C'est juste une sorte de dérive. Puis le réalisme dans ce film-là, c'est comme une sorte de réalisme des corps, la manière qu'ils filment les spectacles. C'est toujours beau, c'est toujours particulier, c'est un peu déstabilisant en même temps. C'est comme... érotique, mais d'une manière assez décalée, on se le cachera pas. Puis c'est ça qui fait de tourner quand même un film, moi, que j'ai trouvé vraiment surprenant aussi par rapport au cinéma français qui, dans les dernières années, est assez conventionné aussi, qui se réfugie dans le mélodrame et dans la comédie grand public, là. Puis là, tout d'un coup, t'as un film vraiment, vraiment audacieux, mais qui l'est pas de manière tape à l'œil, là, qui l'est assez...
C'est l'histoire de cette complicité, c'est clair que c'est l'idée centrale, la complicité avec toutes les...
On dirait que c'est comme l'histoire d'un tournage, d'un réalisateur qui se met en scène avec des gens qui savent pas trop s'ils sont dans un film.
Lui,
il s'est
amusé, vraiment, pour le coup. Tu parlais de quelqu'un, enfin des cinéastes qui s'amusaient pas vraiment, mais alors lui, il s'est donné à fond.
Je pense que c'est un plaisir aussi qui devient vraiment contagieux. Je pense que de tous les films, bon, moi personnellement, le film que j'ai préféré l'année passée, c'était The Social Network. Là.
on t'en veut pas.
Non, ouais, je m'excuse. Mais je trouve, personnellement, je pense que tourner, c'est le film qui m'a donné le plus de plaisir dans une salle de cinéma l'année dernière. J'ai trouvé que c'était un voyage qui était à la fois fascinant, mais qui était vraiment agréable. Puis ouais, qui fait rire, Puis je veux dire, tu sais, il se passe quand même des événements assez dramatiques. Puis bon, c'est la fin n'est pas nécessairement joyeuse, mais c'est quand même un...
Non, c'est la meilleure finale de l'année, selon moi. C'est
l'espèce c'est une très belle scène.
La longue scène dans la maison abandonnée où on dirait qu'ils vont s'installer. Puis j'avais une amie qui me disait... J'avais l'impression qu'il pourrait commencer un nouveau film dans cette place-là. Puis c'est justement ce film-là, c'est comme si... C'était pas des gens qui étaient victimes d'une condition cinématographique, dans le sens où ils étaient pas obligés de vivre des choses à l'écran, il y avait juste à vivre devant une caméra.
Exactement.
Puis il y a pas de grande finale grandiose, c'est The Show Must Go On, puis en même temps c'est grandiose parce qu'il y a Have Love Will Travel des Sonics, une des meilleures chansons de garage rock qui part, puis qui dit comme le générique commence, puis on dirait que ça pourrait être un nouveau film qui débute. Puis il y a comme, puis en même temps, c'est pas un film qui a un début. C'est comme si ça commençait un peu au milieu d'un geste, puis ça se terminait aussi au milieu d'un geste. Puis moi, c'est un autre des films que j'ai trouvé quand même étonnant pour ça. Puis c'est d'autant plus étonnant que moi, avant de savoir que Tournée existe, je savais pas que Mathieu Amalric avait réalisé non seulement un film,
mais plusieurs films. Ben, je pense que t'es pas le seul, ben, en tout cas de notre côté de l'Atlantique.
Effectivement.
Je pense que ces films se sont jamais rendus jusqu'ici, en fait, ou très peu. Donc c'est quand même surprenant, mais je pense que grâce à ça, on va pouvoir avoir accès, peut-être, avec chance, au reste de sa filmographie. Et peut-être pour enchaîner avec un dernier film, je sais que ça, je veux pas que ça fasse trop liste d'épicerie, mais je pense que c'est quand même fondamental d'en parler, c'est Des dieux et des hommes de Xavier Beauvois.
Des hommes et des dieux,
Des
en fait.
Hommes et des dieux, hey, comme si j'avais besoin de l'avoir pratiqué.
C'est pas Happy Chat Punk,
non, c'est
même.
Ça. Pourtant, ça, je l'avais bien eu. Des hommes et des dieux, film, je pense, d'une unanimité universelle qui, malheureusement ou heureusement, peu importe, ne fait pas la liste des Oscars cette année. Je crois qu'on n'est que deux à l'avoir vu, mais j'imagine que vous en avez, Guillaume et Alexandre, beaucoup entendu parler.
J'avais aussi bien aimé Le Petit Lieutenant.
Oui, moi aussi, qui avait été très surpris, qui est un acteur, lui aussi. On parlait de Mathieu Amalric, cinéaste et acteur. Des hommes et des dieux qui semblent avoir été touchés, je sais que ça a été une formule extrêmement répétée, mais vraiment touchés par la grâce, parce qu'on en sort apaisé, on en sort bouleversé en même temps, par une mise en scène, encore une fois, très classique, mais une espèce, encore une fois, de complicité entre un casting hallucinant, dominé par Michael Lonsdale, je sais qu'il faut le dire comme ça, et Lambert Wilson. C'est drôle, deux noms anglophones dans un film français.
Deux gens qui ont joué des méchants de James Bond.
Oui, effectivement.
Qui sont dans les grands films français de l'année.
Quand même surprenant, cette gloire-là que le film a.
Mais c'est un sommet en plus de carrière pour Lambert Wilson, qui a aussi tourné avec Tavernier, qui a un rôle formidable dans La Princesse de Montpensier. C'est
FFM, ouais.
Il dit j'ai 50 ans et je crois qu'il a la cinquantaine
à peu près.
Qui s'en approche, il dit c'est précisément ce que j'attendais pour relancer ma carrière.
Ouais.
Et pour concrétiser tout ce que j'ai pu faire auparavant.
Moi, personnellement, par rapport à Des hommes et des dieux, bon, c'est un film que j'ai adoré. C'est un film qui est quand même assez pesant, disons, par sa mise en scène qui est quand même très, 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 très précise. Mais bon, ça commence avec des moines qui font des chants grégoriens dans une église. Bon, c'est quand même un film qui est assez lent. Mais c'est un film qui se laisse apprivoiser. Il faut pas se fier à la première impression qu'on a de ce film-là. Puis c'est je sais pas comment je pourrais dire ça.
Ça m'a surpris en même temps, la réaction physique qu'on a à ce film-là, qui est vraiment, cette fois-là, pas étrange comme on parlait avec Uncle Bunmi, mais plus relaxante, presque zen. Et je sais que les deux films ont évidemment été beaucoup mis l'un contre l'autre, puisque on attendait la Palme d'Or à Xavier Beauvois, elle a été remise à Vera Cetacool, mais bon, ça, tant mieux ou tant pis, c'est pas grave. Je pense que les deux films ont eu la carrière qu'ils méritaient.
Ils traitent tous les deux d'un rapport au sacré,
ouais,
de toute façon.
Exactement.
Mais t'as raison de le dire, pas de la même façon. Il y en a un où c'est plus une réaction physique d'étrangeté et l'autre plus apaisé.
Je pense qu'on nous plonge dans l'inconfort d'un côté chez Vera Cetacool et l'autre dans un état d'apesanteur presque.
Oui, parce que ce qui paraît vraiment lourd au début de Des hommes et des dieux finit par être ce qui est apaisant, parce que je veux dire, le ton du film, c'est le même du début à la fin.
Oui, effectivement. On reste dans cet état, l'ambiance qu'on établit est vraiment particulière, mais en même temps tout à fait, je le répète, relaxante, apaisante, et en même temps un sujet extrêmement lourd, extrêmement fort, qui a été, je crois, peu médiatisé, ou peut-être plus dans les années 90, je sais pas.
Oui, ça a été dans les années 90, je pense que ça a été assez médiatisé comme...
Okay.
Comme sujet.
Mais d'en faire un film de la sorte, ou qui est peut-être pas nécessairement religieux, mais c'est très 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 spirituel. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que du cinéma qui évoque autant la spiritualité plaise autant Alors que, bon, dans un monde où beaucoup, les gens sont de plus en plus athées, il y a peut-être une quête de spiritualité qui est assez intéressante à voir dans ces films-là. Oncle Bunmi tout autant que Des hommes et des dieux. Bon, c'est sûr que le succès est relatif d'un côté comme de l'autre. Je serais curieux de voir le succès d'Oncle Bunmi en Thaïlande directement.
Thaïlande il l'a montré dans le village, enfin dans les villages où il l'a tourné, je crois.
Ouais.
Mais après, c'est sûr que ça doit être assez curieux.
Effectivement. Mais non, je trouve ça très intéressant, moi, de voir le succès remporté par des films qui traitent de spiritualité et pas nécessairement de religion.
Et j'ai l'impression aussi que ça parle beaucoup de choix, des prises de décision. Il paraît que la scène de prise de décision pour qu'ils restent, pour les moines restent dans le monastère, est vraiment impressionnante. Alors, je sais pas ce que...
Et c'est surprenant de voir que la mort qui rôde aussi, encore une fois, dans ce film-là, de façon tout à fait presque invisible, mais ben, invisible naturellement, mais c'est quand même très intéressant.
Puis comme tu disais, je veux dire, c'est plus un film qui porte sur la spiritualité que la religion comme telle, mais dans un contexte qui est extrêmement religieux. Ouais. Et je veux dire, la façon dont ce film aborde la religion aujourd'hui va quand même à l'opposé total de la façon, bon, avec tous les scandales qu'on connaît. Là. Ouais. Donc ça fait quand même changement. Et bon, je pourrais, c'est une bonne ou une mauvaise chose, je pense. Pas tout que c'est une bonne chose, mais justement avec le fait que c'est l'idée, c'est la dévotion de ces moines-là qui est mis en valeur plus que bon le système religieux comme tel qui fait la différence.
Leur simple humanité est mise de l'avant, c'est assez impressionnant.